Présente.
Claudine Moulin-Parly.
Présente.
Sylvie Émile.
Présente.
Mian Juliet. Absente. Laurent Mailloux.
Présent.
Anne Jiménez.
Présente.
Laurent Moulin.
Présent.
Françoise Hazard.
Présente.
Romain Dostal.
Présente.
Béatrice Taylor-Coster.
Présente.
Jean-Paul Massa.
Présent.
Béatrice Ponsy.
Présente.
Joanne Servigna. Absent. Cécile Corsinos. Absente. François Bessy.
Présent.
Gilles Chico.
Présent.
Merci. Donc, vous avez l'ordre du jour sous les yeux avec quatre points. C'est les observations sur cet ordre du jour. Sinon, je donne au vote. Qui est contre, qui s'abstient, est adopté. Il nous faut un secrétaire ou une secrétaire de séance.
Françoise. Merci Françoise.
Françoise.
J'avais prévu. Hein.
Merci Françoise. Vous avez reçu le compte rendu de la séance du 4 décembre du bout des observations.
Ouais, effectivement.
Personne n'en a. Donc je mets le compte rendu au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. À l'unanimité. Merci. Ben, on attaque directement avec le premier point qu'on fait tous les ans à la réunion de l'année. C'est
les ouvertures de crédit avant le vote de notre budget collectif 2019 en avril. Donc, voilà, dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le 1er janvier de l'exercice en cours, l'exécutif donc, est en droit, et ce jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider, de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites dans le budget de fonctionnement, ça c'est normal, et également de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. Et concernant les dépenses d'investissement, cette autorisation porte sur une délibération de l'organe délibérant sur le quart, sur 25% des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Nous avons un petit tableau dessous, dans les chapitres 20, 21 et 23. Alors le chapitre 20, c'est les immobilisations corporelles, c'est-à-dire c'est tous les honoraires, les études qu'on a pu faire en 2018. Donc pour 30 246 euros en 2018, donc on prend 25%, on peut faire des dépenses, si vous voulez, jusqu'en avril pour 7 561 euros. Après, au chapitre 21, ce sont les immobilisations corporelles, c'est-à-dire ce sont tous les travaux, tout ce qui a été fini, pour 78 770 euros en 2018, et donc 25%, donc on tape 19 692 euros. Et le chapitre 23, qui sont les immobilisations en cours, on a terminé en 2018 à 55 992 euros, donc 25%, on porte à 13 998 euros. Ce qui veut dire qu'avant le budget, on ne peut pas dépasser les 41 251 euros à payer, les 25%.
On peut rajouter, normalement, le conseil municipal où on va adopter, voter le budget, c'est le 21 mars. Sous réserve de confirmation, d'ailleurs, c'est déjà noté. Sous réserve de confirmation, parce qu'on essaie aussi de faire une autre réunion. Donc d'ici là, il faut qu'on puisse fonctionner en investissement. Donc, est-ce qu'il y a des observations par rapport à cette image de crédit? C'est classique, hein, c'est ce qu'on voit dans le crédit en tout cas. Pas d'observations, donc qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Merci.
Alors.
Le point 2,
commission d'évaluation des transferts de charges de l'EPD Méditerranée Métropole. On doit adopter un rapport qui a été un rapport provisoire, qui a été un projet de rapport provisoire qui a été fait le 8 février. Alors, je vais vous dire quand même un petit paragraphe. Donc, la transformation de la communauté d'agglomération en métropole au 1er janvier 2015 a impliqué des transferts de compétences. Depuis, d'autres transferts de compétences, d'équipements ont eu lieu et ont donné lieu à des transferts de charges et des modifications des montants d'attribution de compensation. L'évaluation de ces transferts a été examinée lors de la séance de la CLET du 8 février 2019. Et au cours de cette réunion, le président de la commission a présenté un projet de rapport d'évaluation des charges transférées qui a été débattu et approuvé par la commission. Le rapport était annexé, c'est ça, vous l'avez eu par mail. Il y a toutes les communes qui sont chaque fois représentées, les différents montants. Pour quelques communes, ça ne change pas. Pour nous, ça change parce qu'on a changé, on a modifié notre assiette, on a modifié la CPI. Donc ce rapport voilà, doit être soumis à l'approbation de l'ensemble des communes. Et toutes les communes doivent l'approuver.
En fait, ce qu'on peut rajouter, Laurence, c'est qu'on a discuté ici plusieurs reprises. L'axe principal de ce rapport, c'est de proposer aux communes deux choix en termes d'attribution de compensation. Soit elles maintiennent l'ensemble de la attribution de compensation en investissement, en fonctionnement, la somme de ce qui avait été calculé en investissement. Et fonctionnement, tout ça est repris en fonctionnement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on maintient la situation actuelle. Dans ce cas-là, on peut quand même continuer, c'est ce qu'on a fait ici, on peut quand même continuer à inscrire ce qu'on appelle une ACI, une petite ACI, correspondant au temps pour l'instant restant. Et si on faisait ça, la métropole doublait cette ACI. Ça, c'est le premier scénario. Et deuxième scénario, c'est ce qu'on avait demandé au niveau de Neuvienne notamment, c'est de pouvoir remettre en investissement les AC qui relevaient réellement de l'investissement, ce qui permet d'alléger notre budget de fonctionnement qui était très fortement grevé dans le résultat par le fait que tout était ponctionné sur fonctionnement. Donc ce sont les deux scénarios qui ont été sur lesquels on s'est arrêté en conseil de métropole, enfin en conférence des maires, en premier. Et donc, il y a eu une consultation de l'ensemble des 31 communes pour savoir quel scénario elles préféraient instituer. Et donc, nous, on a beaucoup discuté au niveau de la majorité, et puis avec Marie et Nathalie pour le budget, et donc, on convient d'adopter le scénario de rebasculer en investissement la réalité de cette investissement. Qui va voir après ce qui présente 74 000 euros, et donc d'alléger le budget de fonctionnement. C'est vrai que du coup, on perd la petite bonification de 20 euros de la métropole. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que cette bonification, elle a existé l'année dernière, on n'est même pas sûr qu'elle existe cette année, et à terme, avec les changements possiblement à venir à la métropole, il n'est pas du tout sûr que, par exemple, cette notion de bonification n'était pas gravée dans le marbre, mais on n'était pas du tout sûr. Qu'elle soit maintenue.
Voilà. En sachant que ce qu'on a choisi cette année, Isabelle, on peut changer l'année prochaine. C'est ce qu'ils nous ont dit, nous. Hein.
Ouais.
Le système, quand à la tête, voilà, que le système n'est pas figé.
Voilà.
Pourra peut-être changer.
En tout cas, la ville de Montpellier, par exemple, choisit d'adopter le système des 100% de ses AC investissements en investissement. Ce qui est énorme parce que ça fait 3 millions d'euros, enfin c'était même plus, non 7 millions d'euros, enfin bon c'est des sommes colossales. Et donc il y a 19 communes sur les 31 qui passent à ce système d'assez d'investissement. Donc en fait on a deux délibérations à prendre, une première qui est sur le rapport lui-même qu'on adopte, et puis une deuxième délibération sur les montants. Donc sur ce choix de... Enfin, c'est 10 millions, c'est ça. Pas 3 millions, c'était les 30%. Donc voilà, donc en plus, le fait de pouvoir inscrire en investissement ces attributions de compensation investissement, c'est plus fidèle à la réalité. À la réalité de ces transferts. On la retrouve gravée dans nos budgets. Donc ça, c'est possible depuis la loi rectificative des finances de 2015. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet, sur ce choix? Donc ça veut dire que, d'un point de vue conception du budget d'investissement, c'est quand même, ça veut dire qu'il faut En début d'année, on aura des dépenses contraintes hein, qui sont en investissement le remboursement des emprunts et cette attribution de compensation à la CNF. Ça, c'est le direct. On démarre l'année, on sait qu'on a ça reversé. Pas de questions ?
On a des suffisamment d'ouverture.
Donc, pour l'adoption du rapport de la CLEP du 8 février 2019, qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité. Et donc, du coup, on a.
Alors, pour Murvielle, notre nouvel lancé de fonctionnement sera de 112 476,13 € au lieu de 163 464 qu'on payait précédemment. Donc on allège notre budget de fonctionnement d'à peu près 50 000 €. Par contre, ce qu'on appelle l'ACI, donc l'attribution de compensation d'investissement, nous passons à 74 754 36 € au lieu des 23 000 €.
Ce qui est intéressant, c'est dans ce tableau que vous avez une idée de l'attribution de compensation au sein des communes. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ces mêmes-là ? L'attribution de compensation de 2019. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur ce montant, une question ? Venu au vote, qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc on va passer au quatrième point relatif à la RGPD, Réglementation générale sur la protection des données. C'est donc un règlement émis par l'Union européenne hein, qui s'étend maintenant à l'ensemble des collectivités donc, pour protéger les données personnelles que l'on peut être amené à stocker dans une collectivité ben, du fait qu'on paye des salaires, du fait que, par exemple, on a une liste de contacts au travers de nos listes de diffusion pour la communication. Enfin, on rassemble. Du fait qu'on fasse un annuaire d'entreprise, par exemple, on rassemble un ensemble de données personnelles et on est censé adopter des dispositifs pour protéger ces données à caractère personnel. Ça
n'existait pas, déjà, ce type de loi.
C'est comme la CNIL,
là. Oui, mais là, c'est renforcé et c'est ouais. Unifié au niveau européen et ça a très fortement renforcé. Ben, aujourd'hui, vous avez vu, à chaque fois que vous recevez un mail, un visage de diffusion. Vous avez accepté, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Ça débauche. Ça découle de tout ce dispositif. Donc, voilà, les fichiers qu'on a, c'est des fichiers RH essentiellement. C'est tout ce qui est. Bon, on n'a pas d'accès par page dans la collectivité, mais c'est donc la vidéosurveillance. On a une caméra sur la commune, la gestion de l'état civil, la gestion de la liste électorale. Donc, on va être allégé sur ce point-là. Tous nos systèmes d'information, les requêtes aussi qu'on a via la plateforme de service, c'est le haut de propos. Et donc, il y a nécessité pour mettre en place ce dispositif, on nous demande de désigner un délégué de la protection des données. Donc, le délégué, vous avez ça sous les yeux dans la délibération, voilà. Il informe et il conseille le responsable du traitement, donc ça va être le centre de gestion, hein, et les employés pour tout ce qui est traitement des obligations en matière de protection des données. Il contrôle, il dispense des conseils et il coopère avec l'autorité de contrôle. Donc, ce qu'on propose au niveau de l'effet au fil de point de vue. Et donc, on se propose, parce qu'on n'a pas les moyens, la collectivité seule en interne, de mettre en place ce dispositif, de reposer sur le centre de gestion du département. Donc, ça va être un accord, une convention de. Tu viens pas dit, euros, donc c'est pas énorme, pour faire cette prestation de service. Et donc le conseil d'administration du centre de gestion a décidé de mettre en place une mission en appui aux communes pour mettre en place. Et donc l'idée c'est que ce soit le centre de gestion qui fasse cette mission de... Ah oui, donc là, c'est calculé. Tiens, 0,02% de la masse salariale soumise à l'USAF. Voilà, donc on vous propose d'adhérer à la mission déléguée à la protection des données qui est proposée par le centre de gestion 34. Conseiller 200 euros et de confier au centre de gestion cette mission. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et nous avons terminé l'ordre du jour des points de délibération. Et alors, en question diverse, c'est pour votre information, vous voulez vous prendre un temps sur le PLH, le temps local de l'habitat de la métropole, qui est en cours d'élaboration pour la période 2019-2024. Donc on termine le PLH 2014-2019. Et donc, on a photocopié donc, la fiche de Neuvième. Là, on n'est pas amené à délibérer dessus, donc c'est pour votre information et puis bon, discussion, suggestion éventuelle, mais ce n'est pas la délibération.
C'est ça.
Donc en fait,
Non, ça arrive.
Il y a qu'un document ou...
Ça, c'est la fiche. Le PLH, ça va être un document important C'est intéressant parce qu'en plus ça donne des éléments de diagnostic. Donc il y a des données de cadrage, il y a un bilan du PLH 2013-2018 et puis il y a des objectifs pour 2019-2024. Vous avez sous les yeux le. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on compare à chaque fois Neuvième avec l'ensemble de la métropole. Donc, une évolution, vous avez une stable à moins 0,1%, c'est une stabilité globale de la population sur 2010-2015. Après, vous avez des informations en fonction des tranches d'âge et des termes à venir. Donc, vous avez des nombres, on a 2,7, c'est connu. On est globalement à Neuvième, vous savez déjà, on avait déjà parlé. Sur une commune où il y a. Des familles importantes. On est à 2,7. Et ça, c'est une base importante pour le calcul du nombre de personnes qui vont arriver dans nos opérations. En continuant la même structure de logement, on attire en moyenne 2,7 habitants par logement. Contre 2,1 de la métropole. On a une population très jeune, moins de 18 ans, 1 million. Alors là, je fais une petite parenthèse. Pour le conseil, on a commandité l'année dernière une étude CITEA, ça le nom, voilà. C'est une étude, c'est un portrait vraiment très très complet de Neuvième au niveau socio-démographique, économique, c'est vraiment très 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 complet avec les tendances. Et cette étude, elle est disponible sur le site internet en PDF. Et on en a un exemplaire imprimé aussi en mairie. Et franchement, ça donne plein, vraiment énormément d'informations.
Je me rappelle quand on avait relu.
Voilà, c'est un petit peu ce qu'on discutait tout à l'heure. Peut-être que Serge pourrait faire un petit point là-dessus. Mais ce qu'on discutait tout à l'heure en réunion avec les délégués de parents d'élèves, c'est qu'on a un indice socio-professionnel, ISP, qui est assez élevé. Vous savez que la moyenne, on est à 22 000 euros. Les gains des lots disponibles de 22 000 euros et de 700 en 2020. Donc, et puis les données, peut-être que C'est la moyenne annuelle des logements mis en chantier sur la période rapportée à 1000 habitants. C'est-à-dire que pour 1000 habitants, on a en moyenne une longue construction pour 1000. Donc pour 2000, on a eu 2.
D'accord.
C'est clair que depuis l'opération de l'arme d'Irlande, il y a très très peu de construction comme le vient. Mis à part quelques subdivisions, c'est là, pas une idée. Alors après, vous avez le bilan de la mise en œuvre du PLH 2013-2018. Vous avez rappelé des objectifs. Donc, on avait un objectif de 10 logements par an, donc 60 sur la période. Et en fait, il y a eu 12 de privés, donc 2 par an. Bah, c'est tout le processus de la. Quand tout s'est concentré sur le processus de ZAC, le processus de ZAC a échoué et que maintenant on voit dans une autre processus comme ça. C'est resté comme ça. Et on a aussi la production locative sociale, donc c'était 3 par an, c'est-à-dire 30% des 10. Et donc il n'y a pas eu fait depuis 2010. Enfin, vous voyez qu'au niveau métropolitain, les objectifs ont été largement atteints. Alors c'est là qu'on en arrive aux objectifs de production de la. Alors, il y a eu un travail de fait pour évaluer le nombre de logements qui seront produits sur la période 2019-2024. Donc, le gros paquet de production de logements, c'est le pilotissement sur la parcelle dite sud de Saint-Paul, donc les logements. Et puis c'est l'opération des saliers. Après, il y a quelques productions de logements quand il y a subdivision parcellaire. Ça, c'est difficile de l'estimer, c'est quelques unités. Et donc sur 2019-2024, il va y avoir le passage sur les saliers, notamment sur la partie sud. Donc on n'a pas encore. Un phasage qui est envisageable sur la partie nord, mais sur la partie sud, on n'a pas encore beaucoup de visibilité. Notamment le calendrier d'habitat participatif, tout ça, ça risque d'être un petit peu longuet, ce qui n'est pas pour nous déplaire, au contraire. Parce que le plus on pourra l'étaler, le mieux ce sera. Mais donc, on prévoit jusqu'à 150 logements d'ici 2024. Donc ça fait 6 ans, hein, 2019-2024, 6 ans, soit jusqu'à 25 logements par an en moyenne. Et donc on a une production de logements locatifs sociaux à 30%. On a eu une discussion en conseil métropolitain, parce qu'il y a eu une première proposition de fait pour porter à 33% le nombre de logements locatifs sociaux. L'ensemble des communes de la métropole. Et moi personnellement, j'ai dit qu'elle me vient d'un inconvénient, 33 ou 36%, c'est pas un souci. Le seul souci, c'est que sur une ville comme sur beaucoup d'autres communes, le problème, c'est que c'est difficile pour les personnes, souvent le public des logements en locatif social, le coût du transport, quand il n'y a pas de transport en commun. Donc ici, c'est pas attractif. C'est vrai que Neuvienne n'est pas très attractif, même si la demande.
Oui, même si après, quand il y a de la demande, en général, quand les gens sont positionnés, ils restent.
Ils bougent
plus. Parce que souvent, c'est ça, quoi.
Mais en tout cas, la vérité, on était prêts à payer 33% s'il fallait. Ce n'était vraiment pas un problème pour Neuvienne, 33%. Mais apparemment, ça heurtait certaines communes qui avaient du mal à annoncer qu'elles allaient passer de 30 à 33% de logements sociaux entre le CPLH et niveau. Donc, il y a une, surtout pour les communes qui viennent du deuxième cercle. Et donc, la majorité des maires qui étaient concernées par ces concernées dans ces communes-là ont dit qu'elles préféraient rester à 30. Et donc, voilà. Pareil, elle a été adoptée pour tout le monde, mais. Pour nous, à Meublas, c'est vraiment pas un
prix. C'est pas mal, parce qu'ils étaient à 25, ils sont passés à 30. Déjà.
Ouais.
Voilà.
Donc, on aura 30% de la même manière sur l'ancien projet. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a les 579 ici et les 550.
Parce qu'ils ont rajouté ce qu'ils appellent le gisement de l'ancien.
Regarde, c'est visuel. Voilà, donc ça c'est. Donc c'est vrai que Mougiac va connaître. Voilà, pendant 10 ans, je veux dire, il y aura un gros creux dans la production de logement, stagnation, c'est clair. Là, on va arriver à nouveau dans une phase de production de logement forte, hein, faut pas se cacher. Même si on a énormément restreint par rapport à la ZAC. Et puis l'enjeu maintenant, ça va être d'arriver à. Il est très fort, c'est sûr. Hein. Ça va être d'arriver à quand même arriver à étaler sur cette période la production de logement.
C'est quoi les gisements mobilisables?
C'est des dents creuses.
C'est des dents creuses. Alors là, c'est une
finance. Là, ils ont fait un rond sur les.
Ah, non, c'est bizarre.
C'est là, à l'intérieur, c'est une coupure des parties coupées en deux. C'est des actions dans.
D'accord.
Dans du bâti existant, qui va du maison, il y en aura deux ou trois.
C'est des zones où il y a des grands terrains.
Des grands terrains. Ils sont susceptibles d'évoluer. Ça, c'est important.
Oui. Ça, c'est non maîtrisable.
C'est placé sur l'hôtel Jonquet.
Oui, là, c'est
là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est
là, c'est là, c'est là,
c'est bien.
Je ne sais pas si vous avez des observations, il y a bien un bon niveau, donc il est quand même. Je voudrais vous demander. Il y a des débats par rapport à ça. Sinon, on devait faire un point sur la. Est-ce que vous faites un point sur la. Sur les tables qu'il y a.
Sur quoi, Isabelle, il n'a pas compris, Serge.
Sur les écoles. Et sur l'acquisition du bâtiment des Capillas, donc là, c'est un point qu'on avait mis, mais c'est un petit peu trop long, donc on reviendra en conseil municipal. Mais parce que je n'ai pas reçu un premier pour que ce soit du département. Et donc, le département va proposer de nous rétrocéder le bâtiment du conseil des Capillas. Donc, ça, c'est des. Les négociations qui avancent bien et on devrait avoir prochainement à acter. On devait le faire là, mais il manque pour le trouver, c'est le premier délit. Donc on en parlera au prochain conseil municipal, je pense. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on continue à bien avancer sur l'idée d'avoir vraiment consacré cette zone à l'agriculture et à des activités par rapport.
C'est le seul qui est là.
Voilà.
Merci. Non, puisqu'on est sur les quatre pilas, on peut signaler juste en information. On va aussi signer le bail là, avec l'éleveur, oui. Un bail de 9 ans. Donc là, on s'engage pour une période
de.
L'éleveur de chèvres, hein, qui est déjà présent, avec qui on avait un commoda d'un an, qui est étagé. Donc là, on va consolider son installation avec ce bail. Et un bail onéreux qui paiera.
Bail rural.
Et calculé avec un prix de fermage calculé sur des normes.
Et qui permet d'amortir les dépenses engagées. Voilà.
Cela dit, ce n'est pas avec l'agriculture qu'on fait rentrer des sous, sachez-le. Parce que le niveau des baux par rapport au foncier locatif, c'est une autre planète.
C'est clair.
Bien, s'il n'y a pas d'autres points divers, on va arrêter le conseil. Merci à vous.
Merci.